La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, le Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici dans cette maison de prière. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux et d'Internet. Nous sommes en communion les uns avec les autres ce matin avec nos deux invités, Ingrid Pratt et Agnès Daudet, qui sont venues ici partager avec nous leur prédication. Pour nous ce matin, elles sont venues du Piémont Cévenol. Et j'imagine que beaucoup ici, vous connaissez le Piémont Cévenol et que vous pratiquez régulièrement dans l'année des séjours là-bas. Et donc, Paris et les Cévennes sont encore plus proches ce matin l'un de l'autre. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous dans ce lieu pour accompagner d'abord un groupe de catéchumènes que vous avez accompagné à Paris pour que les jeunes filles et les jeunes garçons puissent aller visiter tous les lieux, des lieux de culte surtout, qui sont à Paris emblématiques à la fois de certaines religions et aussi de certaines époques. Et donc nous sommes très heureux d'avoir pu faciliter la venue des enfants ici. J'espère que tout s'est bien passé, mais je pense que oui, malgré un contexte difficile et notamment à Paris, dans une capitale, les événements internationaux et politiques sont toujours ressentis avec plus de vivacité, mais ça ne vous a pas empêché de visiter les lieux que vous aviez choisi de visiter. Donc c'est très important pour nous de savoir que ça s'est bien passé. Voilà. Alors je vais peut-être vous laisser la parole pour simplement peut-être saluer nos amis qui sont ici au temple.
Et quand on salue, on dit bonjour. Bonjour. Alors c'est assez étonnant parce que moi je commence mes cultes comme ça, en disant bonjour. Et j'attends que les gens me répondent. Mais je sens que vous n'êtes pas habitués là. Ah voilà. Bonjour. Voilà. Non, elle n'ose pas. Bien choix.
Ne vous inquiétez pas pour prêcher, Agnès ose. Voilà. Je voulais aussi avoir un bonjour particulier pour les aumôniers des prisons qui sont rassemblés en pastorale nationale en ce moment même et où notre consœur Agnès Adeline Schaeffer est actuellement à 7. Et donc, voilà, je voulais qu'on salue particulièrement les aumôniers des prisons qui font un travail très, très important dans ces lieux où l'Église doit se déplacer pour aller rencontrer ceux qui ne peuvent plus venir à l'Église. C'est très important. Je voulais aussi saluer notre confrère de Francfort qui est ici avec un groupe qui est venu donc nous retrouver. Voilà, bonjour à vous, bienvenue à l'Oratoire du Louvre. C'est le deuxième groupe germanophone qui vient cette semaine et on est très très heureux d'accueillir les confrères à travers les frontières. On passera la frontière aussi dans ce culte avec la prédication de nos deux consœurs. Voilà, je vous invite à entrer dans ce temps de culte avec la prière. Éternel, bénis-nous au moment où nous nous rassemblons pour louer ton nom, pour te prier, pour remettre nos vies sous ton regard un peu particulièrement, pour prendre ce temps de la prière, de la louange, de la réflexion. Nous te remercions pour ce que nous vivons les uns et les autres ensemble dans cette communauté. Et nous te remercions pour tout ce que tu nous apportes dans les rencontres. Éternel, bénis ce temps mis à part pour toi. Amen. Et je vous invite à chanter le premier répond qui se trouve dans les psautiers français. Vous avez tous les répons du culte avec le déroulement du culte. Nous louons le Seigneur. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Et je vous invite à louer l'Éternel avec le psaume 138 dans les psautiers français, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Dans l'évangile de Matthieu, un pharisien demande à Jésus, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répond alors, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Mais le second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous présentons devant Dieu avec confiance, avec cette prière retrouvée sur un soldat dans sa poche, un soldat de la guerre de sécession. Je demandais la force afin de pouvoir accomplir ma tâche. Je reçus la faiblesse afin d'apprendre à obéir. Je demandais la santé afin de faire des choses plus grandes et je reçus l'infirmité afin de faire des choses meilleures. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Je reçus la pauvreté afin d'être sage. Je demandais la puissance afin d'avoir la louange des hommes. Je reçus l'impuissance afin de sentir le besoin de Dieu. Je demandais toutes choses afin de jouir de la vie et je reçus la vie afin de jouir de toutes choses. Je ne reçus rien de ce que je demandais, mais tout ce que j'espérais. Presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Je suis bénie plus que tous les hommes. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous invite à vous lever pour que tout votre être reçoive cette parole de grâce. Le Seigneur dit, « Ma grâce te suffit, va, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Amen. Restons debout pour partager ensemble les paroles d'une confession de foi possible parmi toutes les confessions de foi que nous avons dans le cœur. Je crois en Dieu, sans pouvoir le définir. Il est la transcendance qui donne une autre dimension à ma vie. Je ne connais pas son nom, je n'ai de lui aucune image, mais toujours dans ma vie, il est là, comme une lumière qui éclaire mon chemin, un vis-à-vis dans la solitude des jours. Je crois que si ma foi vacille, il croit en moi sans se désespérer, c'est mon espérance. Je crois en Jésus et je crois qu'il est le Christ. Dieu s'est révélé à lui et l'a pris pour fils. Il a cru en l'amour de Dieu et a aimé son prochain inconditionnellement. Il a été fidèle jusqu'au bout, loyal jusqu'à en mourir. Son exemple me conduit. Jésus est pour moi un maître de sagesse. Sa résurrection a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. Je crois en l'Esprit Saint et je ressens son action entre les hommes qui veulent faire advenir le royaume de Dieu. Il nous réunit dans la communion fraternelle. Il me reprend quand je m'égare et il éclaire les ténèbres de ma vie. J'ai confiance en son souffle. Il m'a tant de fois sauvée. Je crois en l'homme quand il transforme le monde pour le rendre plus juste, plus beau et habitable pour tous. Je crois que nous faisons ce que nous pouvons, même si ce n'est pas assez. Et j'ose croire que la foi, l'espérance et l'amour président à l'action de beaucoup sur cette terre. Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité.
Avant de nous mettre à l'écoute du texte pour aujourd'hui, nous prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, merci pour ta parole. Conduis-nous dans sa lecture. Qu'elle fasse taire en nous toute autre voix que la tienne. Le texte que nous vous proposons d'entendre aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier. « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours !» Il répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » « C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. Et nous chantons au psaume 72, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Au commencement, un jardin monde. En son centre, une limite à ne pas franchir, une frontière à ne pas dépasser. Celle de la connaissance du bien et du mal. C'est absurde, une frontière en plein milieu. Et d'ailleurs, les mots « milieu »,« centre » sont les parfaits antonymes du mot « frontière ». Mais voilà que l'histoire, symbolique et mythologique, nous raconte que la limite imposée a été franchie. les ennuis de l'humanité naissante s'amorcent. Il va falloir sortir du jardin monde désormais clos par une frontière indépassable et trouver la paix sera une gageure permanente. Aujourd'hui, ce n'est pas sans crainte et tremblement que l'on évoque la question des frontières. Frontières où se jouent les enjeux de pouvoir, frontières où explosent les conflits, frontières théâtre des pires atrocités de part et d'autre. La frontière peut être synonyme de repli, d'enfermement, d'emprisonnement à ciel ouvert parfois. Mais la frontière, c'est aussi ce qui permet la vie, à l'image du récit de la création, où Dieu crée en séparant l'eau du sec, la lumière de l'obscurité. Si tout était mélangé, la vie ne serait pas possible. La frontière, quand elle est justement établie, peut donc définir, délimiter, ordonner. En cela, elle peut permettre une justesse et un équilibre. Alors, les frontières peuvent devenir des points de contact, d'échange, de relais.
Jésus passe la frontière pour aller vers la région de Tyr et de Sidon, une région étrangère et non juive au nord de la Galilée. Mais nous sommes en droit de nous poser la question. Jésus a-t-il vraiment passé cette frontière ? En effet, la frontière, ce n'est pas seulement le tracé d'un territoire. De multiples frontières nous habitent. Nous les portons en nous, dans nos têtes, dans nos regards, dans nos éducations, dans la manière dont nous a façonné notre société, dans nos préjugés, dans nos rigidités. Ces frontières invisibles sont certainement les plus vivaces, les mieux enracinées dans nos esprits. Alors, Jésus a-t-il passé la frontière ? N'est-il pas resté en esprit, en pensée et en action en terre d'Israël ? Autrement dit, se serait-il contenté d'aller vers un rien ? Le temps d'un repos, se serait-il contenté de dépasser une borne qui, par-delà elle-même, ne laisse pas de place à un inconnu ? Jésus part chez les autres, mais c'est pour y rester caché, comme s'il se cherchait lui-même dans le secret. Et soudain, dans cet incognito où il se protège, une femme fait irruption. Cette femme étrangère est d'abord le signe que le ministère de Jésus le précède, que sa parole a dépassé les frontières. D'où vient cette femme ? De nulle part, du pays du malheur. Qui est-elle ? Le texte ne le dit pas. C'est une anonyme, une cananéenne. La définir comme cananéenne, c'est lui donner pour seule identification un statut d'étrangeté. Elle est cananéenne, ce qui signifie femme, étrangère et païenne. Cette cananéenne crie « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. la Cananéenne crie de souffrance. Mais si elle crie, c'est aussi parce qu'elle n'est pas entendue. Son cri est alors le signe d'une frontière épaisse qui la sépare du représentant de tous ses espoirs. Elle crie. C'est sa manière à elle de rentrer dans la sphère de Jésus. Et en plus de crier, elle l'appelle Seigneur, fils de David. Ça veut dire qu'elle l'appelle selon la tradition juive, comme pour signifier la reconnaissance d'un peuple, pour tenter de le rejoindre dans sa tradition, dans son langage. C'est dire que les frontières sont aussi celles de nos croyances, de nos appartenances religieuses, de l'interprétation et du souvenir d'une histoire collective passée qui colle souvent à nos inconsciences et à nos représentations. Mais la frontière, c'est aussi celle du malheur. La souffrance n'est pas toujours facile à comprendre. Passer de l'autre côté de la frontière pour entrer dans le pays du malheur, personne n'en a envie. Mais surtout, personne ne le peut vraiment. Comment comprendre une souffrance, y compatir pleinement, si on ne l'a pas vécue dans sa chair? Il y a là une frontière qui n'est franchissable que par l'expérience même du malheur. On peut toutefois tenter d'estomper cet isolement en prenant le temps de rester à l'orée de la frontière, à tendre l'oreille et à travailler son écoute.
Et malgré tous les efforts de cette femme, lui, Jésus, qui distribuait sa parole sans compter tout autour du lac de Galilée, garde sa parole en lui-même. Il garde le silence. Le texte précise, il ne lui répondit pas un mot, pas un seul logos. Il ne lui propose aucun système de sens, aucun lien possible. Si le cri de cette femme est le signe d'une frontière, le silence de Jésus en est un bien plus fort. Aujourd'hui, où les prises de position se contredisent et se déchirent, notre silence serait tout aussi inconvenant. Garder le silence et la distance devant l'horreur, c'est affirmer qu'une frontière infranchissable nous sépare de cette horreur, la frontière de l'indifférence, la frontière de l'ignorance. Jésus, lui, semble radicalement coupé de cette femme. Il semble s'enfermer en lui-même. Mais la femme ne s'arrête pas là. Elle continue à frapper à la porte. Alors surgit l'intervention des disciples. Cette intervention, nous la trouvons seulement chez Matthieu. Elle nous indique que les disciples peuvent représenter ici les débuts de la communauté mathéenne au sein de laquelle a été écrit cet évangile. Il s'agit d'une communauté juive qui avait reconnu en Jésus le Messie. À ses débuts, elle considérait que la mission de Jésus était cantonnée au peuple juif. Mais après leur migration en Syrie, en terre païenne, ils réalisent que le message de leur Seigneur les a précédés, qu'il a dépassé les frontières, puisqu'ils rencontrent alors des non-juifs qui se réclament de Jésus. Quand les non-juifs ont frappé à la porte, face à l'inattendu, face à l'incompréhension peut-être et à la peur d'être dénaturée, cette communauté a pu les rejeter. Les disciples, quant à eux, aimeraient bien trouver un moyen d'éloigner ce qui les bouscule et déplace leur compréhension habituelle. Renvoie-la, car elle crie derrière nous, disent les disciples à Jésus. Face au courage de la femme, la lâcheté des disciples est frappante, eux qui n'osent même pas s'adresser à elle directement, mais qui délèguent la tâche à leur maître. Cette femme dérange parce qu'elle vient interroger les frontières des disciples et de Jésus, des frontières qui sont devenues des limites d'a priori, des limites de droit, des limites indépendantes de toute expérience. Ces limites sont celles de la loi, du dogme, de la peur, qui font croire à un caractère immuable. La Cananéenne est face à un mur parce que le Dieu des Juifs n'a rien à faire avec les païens, selon les disciples. Voilà la limite. Et si on changeait cette limite, ce serait toute la définition du peuple d'Israël qu'il faudrait redéfinir. Voilà le danger, devoir se redéfinir, être déplacé, remettre en question les fondations d'une croyance. Alors, la femme, pour continuer à lutter contre cette frontière invisible, se prosterne devant Jésus. Elle reprend le geste que les mages ont été les premiers à faire dans l'évangile matthéen. Elle rentre dans la lignée des étrangers qui vont à la rencontre de Jésus. Et cette fois-ci, ce n'est plus l'appellation juive qu'elle utilise, mais seulement « Seigneur ». Comme pour dire qu'il n'est pas là uniquement pour les enfants d'Abraham, comme pour dire qu'il peut être Seigneur, même pour une femme étrangère et non juive. Mais la réponse de Jésus pose la limite. Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Elle continue d'appeler au secours. Alors, le couperet tombe. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Ces mots sont une insulte à son malheur, pire qu'un refus, une humiliation. La limite de Jésus est si forte qu'elle renvoie la Cananéenne à une condition subalterne. Elle assume qu'à l'extérieur de la limite, l'autre a moins de valeur, qu'il fait partie d'une sous-catégorie d'êtres humains que l'on traite bien souvent d'animaux. C'est dramatiquement criant d'actualité. Sommes-nous encore dans l'Évangile ? Jésus ne serait-il qu'un Messie juif pour les Juifs, enfermé dans une vision exclusive ? La dureté même du propos apparaît comme une incapacité à franchir la frontière.
Mais voilà que le grand renversement va avoir lieu, car le courage de cette femme, lui, ne cesse d'en repousser ses bornes en s'accrochant à son espérance. La Cananéenne reprend alors avec courage les mots de Jésus. C'est vrai, Seigneur. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En reprenant cette parole qui la rejette, elle reconnaît dans un premier temps une forme de hiérarchie. Oui, c'est le peuple d'Israël qui rencontre en premier le Sauveur, mais par la suite, les petits chiens aussi se nourrissent de sa parole. elle parle son langage pour s'introduire, se rapprocher et dépasser les limites de Jésus. Elle plaide contre ce refus de Jésus avec les mots mêmes de Jésus. Mais par son affirmation, elle dit aussi quelque chose de fondamental. Les enfants, comme les petits chiens, se nourrissent de la même nourriture. Autrement dit, à travers le pain, un « nous » est rendu possible.
Jésus entend cette parole. Lui qui était resté sourd aux cris de cette mère se laisse habiter par sa réponse, par la vision qu'elle lui transmet. C'est de cette voix d'une païenne qu'il entend qui il est vraiment. Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux, lui répond-il. Cette réponse est le signe de la conversion de Jésus. On pourrait même dire que Jésus passe d'une mort à la vie, de la mort de l'enfermement, du repli sur soi, à la vie ouverte sur l'extérieur, une vie qui le recentre sur l'essentiel, une vie capable de redéfinir qui il est. Alors la frontière éclate. Ce qui définit le peuple d'Israël n'est plus délimité par des frontières, mais par ce qui le rassemble, le recentre, la foi. Les croyants en Christ n'ont plus besoin de frontières, ils ont seulement besoin d'un centre, le pain, la parole nourrissante. Cette parole devient alors le noyau qui définit, rassemble et fortifie, et une fraternité est rendue possible bien au-delà des frontières. Alors oui, la hiérarchie est complètement renversée, puisque la foi de la Cananéenne est reconnue, et même davantage que celle des disciples qui sont toujours qualifiés par Jésus d'hommes de petite foi. Oui, la femme cananéenne n'est plus un petit chien. Elle fait partie des enfants. Elle est invitée à la table.
Ce sont ces miettes de pain qui rassemblent, à l'image des graines de foi qui n'ont pas besoin d'être grandes pour pousser très haut. Bien sûr, dans notre pratique, les festins sont de mise. Oui, festoyons. Soyons reconnaissants de ces bonnes et belles choses de la vie que Dieu nous offre. Mais en ce qui concerne la foi, c'est peut-être les miettes qui nourrissent le mieux, car les grands repas, les grandes démonstrations divines, les preuves de l'existence de Dieu, les dogmes bien définis, tous ces repas un peu trop consistants, nous font parfois prendre le risque d'une indigestion.
Voilà qu'une femme étrangère a déchiré la frontière qui limitait le peuple d'Israël à ses descendants. Voilà que le souffle divin, par l'entremise de cette femme courageuse, a fait sortir Jésus d'une logique de frontière pour l'ouvrir à une autre dimension d'un peuple non pas délimité, mais rassemblé par la parole nourrissante.
Voilà que ce week-end, l'oratoire a été peuplé d'accents chantants, comme pour montrer que, contre toute attente, il est possible de dépasser les frontières des Cévennes. Mais au-delà de ces moments précieux, force est de constater que nous avons toutes et tous du travail à envisager pour dépasser nos propres frontières des a priori, des classes sociales, des géographies, des langages religieux, des habitudes, pour rencontrer de temps en temps cette femme étrangère qui crie et dérange, mais qui recentre sur l'essentiel, les miettes qui nourrissent.
Nous sommes un peuple sans frontières, mais qui, pour exister, doit continuer à avoir faim de ce qui le rassemble. Nous voici, peuple sans frontières, avec la responsabilité de faire circuler cette parole nourrissante qui relève et fait vivre, qui se lève contre toutes les frontières de l'injustice et du malheur, qui se dresse contre toutes les frontières intérieures pour ouvrir nos horizons et nous rendre plus proches de l'étranger. Nous voici des pèlerins sans frontières, et comme disait la pasteur Céline Remeur lors de l'Assemblée du désert, marcher à l'espérance de Dieu modifie la réalité visible. Notre marche laisse derrière elle la trace de l'espérance qui œuvre en nous, de sorte que la paix qui nous a été donnée n'est pas sans lien avec la paix dans le monde. La liberté qui nous a été donnée n'est pas sans lien avec la liberté politique. L'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs n'est pas sans lien avec l'amour, le respect et la reconnaissance inconditionnelle de la personne dans notre pays et au-delà de nos frontières.
Seigneur, viens à notre secours et aide-nous à percer les frontières de la haine et de la violence. Amen.
Je vous invite à prendre le cantique 297 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3, et nous nous levons pour chanter. Merci.
Thank you. Voilà venu le temps des annonces. Je commence par un merci à nos deux personnes invitées pour leur prédication universelle avec un accent chantant, universel quand même. Lundi 16 octobre, à la maison presbytérale, l'atelier de peinture, comme d'habitude. Par contre, il n'y aura pas de cours de grec. Les cours de grec s'interrompent un peu en anticipation pour les vacances scolaires et reprendront après la Toussaint. Mardi 17 octobre, culte d'intercession avec scène, avec la pasteur Béatrice Cléromazir, au temple de 12h30 à 13h15, puis déjeuner convivial, selon la formule déjà bien rodée, de 13h15 à 14h15 en salle mono. À partir de 14h15, partage biblique animé par la pasteur Béatrice Cléromazir dans le temple, sur le thème « La Bible en mouvement ». Et ce mois-ci, le thème particulier, c'est « Chuter ». Je ne sais pas. Ouais, seulement d'horreur, correction. Il faudra que je corrige ce que j'ai mis sur le site web. Okay. Jeudi 19 octobre, la pasteur Agnès Schaeffer sera de retour avec nous, donc elle animera normalement la pause spirituelle de 12h30 à 13h30. Il y a, comme tous les jeudis, répétition du chœur de l'oratoire en salle mono en soirée. Dimanche 22 octobre, dimanche prochain, culte avec la pasteur Agnès Adeline Schaeffler, parce que la pasteur Béatrice Cléromazir sera avec son époux Jean-Pierre Cléraud aux journées du protestantisme libéral à 7, le week-end du 21-22 octobre, où ils interviendront tous les deux.
Nous intervenons sur le royaume des cieux, où va-t-on ? Donc vous voyez, on a un gros sujet à gérer là et à travailler, voilà, donc on est invité pour ça.
Une dernière petite précision, vous retrouverez toutes ces informations sur notre lettre hebdomadaire ou sur notre site web sur lequel vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre hebdomadaire si vous n'êtes pas encore inscrit.
Hier, nous avons eu notre première séance de brunch libéral. Alors, c'est une appellation qui déroute peut-être un peu, mais nous avons accueilli un autre Cévenol de Saint-Jean-du-Gard cette fois. Christophe Cousinier était avec nous, pasteur là-bas, et qui est venu nous parler de la réforme dans la réforme, c'est-à-dire la réforme libérale au sein même de la réforme protestante. Et il nous a donc rappelé des moments historiques importants pour cette réforme libérale, et puis aussi nous a permis de dialoguer ensemble et de discuter ensemble sur ce que peut être aujourd'hui le libéralisme théologique protestant. Et donc nous avons eu cette première séance donc de conférence, discussion, et puis nous avons partagé, en continuant la discussion, un brunch. Et donc je vous invite à venir à la prochaine séance si vous n'aviez pas encore noté dans vos tablettes cette initiative. Ce sera sur la question de la foi la prochaine fois, c'est le cas de le dire. Et donc c'est un moment très convivial et en même temps très important pour réfléchir sans cesse à notre propre foi et à notre propre façon de la dire cette foi et de la penser. Et je pense que le libéralisme protestant doit continuer à se penser lui-même et à se critiquer lui-même pour arriver à être toujours en accord avec ce que nous vivons dans notre monde contemporain, ce que nous pouvons lui apporter et y recevoir. Donc venez nombreux, ce sera le 18 novembre, je crois. En tout cas, c'est un samedi matin aussi, et vous l'aurez sur la feuille rose et sur le site internet et sur la newsletter.
Oui, je voulais ajouter, c'est pas parce que Christophe Cousinier est mon pasteur en Cévennes que je veux faire un compliment à Béatrice d'avoir lancé cette initiative et à Christophe Cousinier de nous avoir fait un exposé très très intéressant sur le. Alors on retrouvera cet exposé à brève échéance, j'espère, sur le site web de l'Oratoire.
Voilà, merci beaucoup Jean-Luc. Jean-Luc qui met tous ses contenus sur le site de l'Oratoire, on peut lui dire merci parce que c'est grâce à lui qu'on peut retrouver tous nos podcasts et tout ce qu'on fait ici. Pour ceux qui ne peuvent pas venir le jour même, ils peuvent toujours retrouver après. C'est maintenant le moment de l'offrande et c'est donc le moment où nous pouvons partager un peu de ce que nous avons pour que toutes et tous, ici dans cette église, mais aussi autour, quand nous aidons autour de cette église, nous puissions continuer à partager ce que nous recevons de la part de notre Seigneur, l'Éternel. Merci. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions ce matin, le cœur serré devant les événements qui montrent une haine qui se déchaîne. Et la paix semble si loin. et les frontières semblent si étanches et la parole semble si faible. Agnès et Ingrid nous ont alertés sur cette question des frontières. Et nous sommes avec cette question en nous. Comment notre parole traversera la frontière? Comment ta parole traversera nos frontières? Quelle ambassade permettra la paix? Quel courage permettra de tendre la main pour faire la paix? Comment l'humiliation, la rancune, les haines ressassées depuis des décennies pourront enfin être apaisées par le désir de paix? Je veux prier ce matin pour nos enfants. Nos enfants ne veut pas dire ceux seulement que nous avons mis au monde, mais ceux pour lesquels nous préparons un monde vivable. Je veux prier pour les enfants qui sont là ce matin avec nous et qui se demandent sans doute ce que nous leur préparons. Je veux prier pour les enfants qui meurent de la guerre et de la haine des adultes. Je veux prier pour les enfants éduqués dans la haine de l'autre et qui mettront beaucoup de temps à revenir de cette haine. Éternel, apprends-nous à nous départir de nos propres a priori, de nos propres désirs de puissance et de pouvoir, pour pouvoir nous oublier un peu et penser à ceux qui viennent après nous et qui n'ont pas demandé à être là dans un monde où l'on se tue les uns les autres, où la cruauté remplace le dialogue, où les frontières imposées empêchent tout avenir. Éternel, nous te remettons nos décisions, nos prises de position, nos attitudes, pour que nous puissions être ambassadeurs de paix et que nous ne tombions pas dans le piège de la haine. Il est si facile de dire son avis quand on n'y met pas toute sa vie. Il est si facile de juger et de faire des déclarations quand on n'est pas menacé de mort. Il est si facile de juger ceux qui vivent dans la guerre quand on est dans un pays en paix. Il est si facile de critiquer des institutions quand on a oublié qu'elles nous préservent de toute cruauté. Éternel, rends-nous adultes et permets que nous soyons responsables de nos enfants, ceux qui vivent avec nous sur notre territoire, ceux qui dormiront dans la rue ce soir aussi, et pour qui, étrangement, nous ne trouvons toujours pas de solution, ceux qui sont aussi hors de nos frontières et qui aimeraient qu'on les accueille ici pour se mettre à l'abri, ceux qui vivent hors de nos frontières et qui ne pourront jamais venir ici parce qu'ils n'en ont pas la liberté, ceux qui vivent aujourd'hui et ne seront plus demain. Éternel, les évangiles ont voulu nous parler de ta parole en nous présentant un enfant. Les évangiles ont voulu raconter que Jésus, le maître, le rabbin, celui qui donne l'intelligence, fut un enfant un jour, à la merci des adultes, à la merci de leur prise de position, de leur lâcheté ou de leur courage. Permet que nous soyons les parents de nos enfants, aimants et responsables, toujours là avec eux et pour eux, comme tu es toi-même le parent toujours là avec nous et pour nous. Et ensemble, nous nous levons et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons entendu la parole qui nous a été donnée ce matin pour que notre vie soit meilleure, pas seulement ici dans notre communauté, mais à l'extérieur, avec ceux qui ont besoin de cette parole. Alors allons porter la parole de paix, allons et soyons sans cesse dans la responsabilité de nos paroles. Allons et prêchons d'exemple par notre façon d'être à la fois courageux et en même temps sérieux dans nos prises de position. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen. Voilà, et je n'ai pas remercié Aurélien Péter qui est à l'orgue ce matin, qui nous a accompagnés. Merci Aurélien pour ce culte. Et ce matin, il y a un pot d'accueil après ce moment que nous avons vécu ensemble. Et vous pourrez du coup rencontrer nos amis Ingrid Pratt et Agnès Daudet. Et vous pourrez donc échanger avec elles. Donc venez faire connaissance avec nos collègues dans la grande sacristie pour ceux qui peuvent rester. Merci beaucoup.